Kenya, Jacques Lavergne, bonjour. Arkenia, l'émission résiliente, la chose importante à garder en tête et qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde, c'est un extrait du journal d'Anne Frank. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors en Arcania, qui va commencer par une revue de presse, nous parlerons ensuite de la COP15 et la biodiversité. Les rubriques de fin d'émission, vous les connaissez, le « ça va mieux » et le « conseil culturel ». Mais commençons sans plus attendre par nos brèves. Alors, la première brève, nous l'avons trouvée bien évidemment dans l'excellent média en ligne de l'écologie Reporter, qui nous dit que dans la nuit du 5 au 6 décembre, le Parlement européen et les États membres ont trouvé un accord sur une nouvelle loi interdisant les produits issus de la déforestation, comme le café, le soja, l'huile de palme, le bois, le caoutchouc et le papier. Ce texte obligera les entreprises à prouver que leurs produits vendus dans l'UE n'ont pas récemment contribué à la déforestation, c'est-à-dire qu'aucune forêt n'a été déboisée après le 31 décembre 2020. Les entreprises importatrices devront remonter leur chaîne d'approvisionnement jusqu'à la parcelle de production sous peine d'amende, traçable via des données de géolocalisation des photos satellitaires. Selon Greenpeace, cette loi empêchera certaines entreprises de tirer profit de la déforestation. L'association environnementale alerte néanmoins sur le fait que d'autres terres boisées, comme celle du Cerrado au Brésil, ne sont pas couvertes par le texte. Sur France Info, l'association de défense des forêts Canopée a réagi « c'est une avancée mitigée, mais timide ». Le texte serait seulement efficace à 40% selon Canopée, puisque 60% de nos importations européennes risquent de déforestation, viennent du soja, qui ne proviennent pas des forêts, mais des savanes arborées, comme celle justement du Cerrado. Le texte entrera en vigueur d'ici un an et demi et sera réexaminé dans 2 ans. Selon Canopée, il sera déjà trop tard pour le Brésil et pour le Cerrado. C'est 140 000 hectares, nous dit l'association, qui disparaissent chaque année. C'est 10 fois Paris. Effectivement, c'est tout à fait considérable. Autre brève, et celle-là concernant le bruit, la pollution sonore sous-marine, qui est un autre fléau des mers. Et pour la première fois, la Commission européenne a édicté des recommandations pour limiter le bruit des activités humaines en mer, un bruit qui fragilise la biodiversité. Les États doivent à présent s'en emparer pour légiférer au niveau national. Invisible mais profondément déductrice pour la biodiversité, la pollution sonore sous-marine est encore peu réglementée au niveau international. Alors que se tient la COP15 biodiversité à Montréal, dont nous parlerons tout à l'heure, la Commission européenne a publié ses recommandations pour limiter ces nuisances qui fragilisent les écosystèmes. Selon cet avis, une publication inédite d'ailleurs pour l'Union européenne, 20% au maximum d'une zone marine donnée ne doit être exposée à un bruit sous-marin continu sur un an. De même, 20% au maximum de l'habitat marin ne peut être soumis à un bruit impulsif sur un jour donné et pas plus de 10% sur un an. Parmi les bruits impulsifs cités, on trouve ceux générés par des travaux sous-marins, les sonars militaires et les prospections gazières et pétrolières. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Troisième brève, et celle-là c'est Le Monde qui nous la livre. La France continue à exporter des milliers de tonnes de pesticides ultra-toxiques malgré l'interdiction de cette pratique. Alors celle-ci est qualifiée d'odieuse, c'est le mot employé par les Nations Unies, mais que la France et les pays européens ont décidément du mal à arrêter. L'exportation de pesticides dont l'usage est interdit dans l'Union européenne en raison de leur dangerosité pour la santé et pour l'environnement, Malgré cette interdiction, on constate des trous dans la raquette, si je puis dire. Pionnière, la France est devenue le 1er janvier 2022. Le pays a prohibé ce commerce controversé depuis son territoire. Pourtant, près d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, elle continue à exporter massivement des pesticides interdits. Entre janvier et septembre, plus de 7400 tonnes de substances ultra-toxiques, excusez du peu, ont été acheminées principalement vers le Brésil, mais également en Ukraine, en Russie, au Mexique, en Inde ou en Algérie. Fongicides, herbicides, insecticides. Au total, 155 demandes d'autorisation correspondant à une quinzaine de molécules compilées par l'association suisse publique EI-UNERTED, la cellule d'investigation de la branche britannique de Greenpeace. Le rapport publié le mercredi 30 novembre et auquel le journal Le Monde a eu accès met en lumière les failles de la législation. La principale de ces failles réside dans la loi elle-même. L'interdiction prévue dans la loi sur l'alimentation, promulguée en 2018, s'applique aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances non autorisées en Europe, mais pas aux substances actives elles-mêmes. Aussi, les industriels peuvent, en toute légalité, continuer à exporter des produits interdits sous forme pure, et la pratique montre qu'ils sont loin de s'en priver. Donc, comme vous le voyez, ces textes qui étaient parfaitement légitimes, parfaitement attendus par la communauté qui s'intéresse à l'environnement et au sort de la planète, eh bien, malheureusement, laissent à désirer, et on peut légitimement penser que, ma foi, tout va bien, alors que c'est loin d'être le cas, et que la planète est toujours en danger. Mais ça, je ne vous apprends rien là-dessus. C'est pas nouveau. Allez, je vous propose d'écouter un peu Henri Salvador pour nous détendre après ces nouvelles qui n'étaient pas forcément bonnes, avant de parler de la biodiversité et de l'extension du vivant.
Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Dans mon jardin d'hiver, je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe en fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Coeur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. Dans mon jardin d'hiver.
Voilà, c'était Henri Salvador, Le Jardin d'hiver, dans son CD Chambre avec vue, qui à l'époque avait un peu relancé une carrière déjà bien remplie. Alors venons-en à présent à la COP 15, qui, comme vous le savez, a traité de la biodiversité et de l'extinction très inquiétante du vivant. Si les COP sur le réchauffement ont fini par se faire remarquer, celles du vivant sont encore largement inaperçues. Et pourtant, elles se succèdent depuis 30 ans. Et je vous renvoie là-dessus sur l'excellent feuilleton qui a inspiré cette chronique sur ce sujet durant 5 semaines qui a été tenue dans le Canard enchaîné par Jean-Luc Porquet. On y retrouve énormément d'informations. Alors, pour revenir au fond de notre sujet, il est temps de cesser notre guerre contre la nature. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le mardi 6 décembre à Montréal, lors de l'ouverture de cette COP 15. Et voilà exactement son propos introductif. Je le cite, ouvrez les guillemets. Les multinationales remplissent leurs comptes bancaires tout en vidant notre monde de ses ressources naturelles. Les écosystèmes sont devenus des terrains de jeu pour faire des profits. Avec notre appétit insatiable pour une croissance économique incontrôlée et inégalable, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme nos toilettes et finalement, nous nous suicidons par procuration. Fermez les guillemets. Voilà, des mots extrêmement forts que n'aurait peut-être pas désavoué Greta Thunberg, mais qui, prononcés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont quand même une autre répercussion. Il n'est pas le seul à avoir émis des diagnostics extrêmement inquiets et empreints de mots forts. Si on lit par exemple Robert Watson, qui est l'ex-président de l'IPBES, et je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. On peut le dire d'ailleurs d'ores et déjà, c'est la plateforme internationale des chercheurs en biodiversité, donc elle est au vivant, si vous voulez, ce que le GIEC est au climat. Et voilà ce que dit son ancien président Robert Watson. Nous sommes en train d'éroder les fondements même de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. C'est là aussi un signal dont il faut tenir compte, notamment lorsque Robert Watson précise que la perte de biodiversité est un saut dans l'inconnu, avec des risques à probabilité élevée, des impacts d'une portée extrême, ce sont ces mots, hein, une potentielle irréversibilité. Et il en conclut, il faut d'urgence rétablir un équilibre écologique limitant l'augmentation des risques. Donc lorsque l'on entend ça, ça interpelle, comme on dirait maintenant, et il faut bien en reconnaître que l'affaire est extrêmement inquiétante. Deux chercheurs de l'université d'Hawaï, pour ne citer qu'eux, mais on ne peut pas citer tout le monde, se sont livrés à des recherches. Et notamment en considérant que, et ce sont des recherches bien sûr extrêmement onéreuses, hein, on dépense des fortunes à la recherche des quasars, vous savez, ces trous noirs, alors c'est formidable bien sûr, mais on ne sait même pas ce qu'il y a sous nos pieds et on va chercher à des millions ou des milliards de kilomètres des informations dont on ne sait pas à quoi elles nous serviront un jour, peut-être vaudrait-il balayé devant notre porte. Alors j'évoquais ces deux chercheurs de l'université d'Hawaï, eh bien ils ont calculé que la planète abriterait au minimum 8,7 millions d'espèces, alors compris animales et végétales. Et il nous en resterait donc plus de 6 millions à découvrir. D'après ce qu'ils ont calculé, il y aurait 300 ans de travail. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'opposer la recherche spatiale et la recherche de ce qui existe sur notre bonne vieille Terre, mais quand même, les chiffres donnent un peu le vertige. Et en 2019, l'IPBES, donc hein, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a publié un chiffre, repris d'ailleurs par le président Macron sur le perron de l'Élysée, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, alors qu'elles soient ou non répertoriées. On est en train aujourd'hui de détruire aveuglément des espèces dont nous connaissons strictement rien, qui n'ont même pas de nom, donc on est au crime parfait, comme le dit Jean-Luc Porquet dans sa chronique, puisque c'est comme si elles n'existaient pas. Alors il faudra attendre, par exemple, l'année 2012, pour que soit décidée la création de cette plateforme IPBES que j'évoquais tout à l'heure sur le modèle du GIEC. Et cette IPBES est faite aujourd'hui autorité en la matière. Son dernier rapport publié en 2019 est catégorique. Le rythme actuel de destruction de la biodiversité et des écosystèmes est sans précédent et menace 1 million d'espèces. Alors cette COP 15 a eu des prédécesseurs, je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas connu que des succès. Même il y a eu un échec retentissant, c'est la COP qui s'est tenue en 2010 à Nagoya au Japon, laquelle était d'ailleurs très ambitieuse puisqu'elle avait fixé 20 objectifs pour 2020, un plan d'action sur 10 ans à l'échelle mondiale qui, dans son esprit, devait mettre un coup d'arrêt à l'effondrement du vivant en réduisant les pertes des habitats naturels, en multipliant les espaces protégés, en sauvegardant les barrières de corail, etc. Et force est de constater que 10 ans plus tard, et donc en 2020, le bilan tombe comme un couperet. Pas un seul des 20 objectifs n'a été atteint. Au contraire même, on constate qu'il y a de plus en plus de subventions néfastes, c'est-à-dire celles qui participent à la destruction de la biodiversité, par exemple produire plus de viande bovine, construire une route, une serre agricole, ouvrir une mine, bâtir un lotissement, etc. Et ces subventions ne sont pas éliminées, elles sont un tout petit peu rognées, mais sans plus, et en réalité elles n'ont cessé de grimper. Tout au global, et elles atteignent aujourd'hui 1 800 000 dollars par an, donc ce sont des chiffres considérables, et c'est là un des échecs de cette COP 10. Un des enjeux les plus cruciaux de la COP 15 qui nous occupe aujourd'hui, c'est le suivi des décisions qui sont prises. Parce qu'en effet, pour que les cibles visées par la COP 15 soient vraiment atteintes, il faut veiller à la mise en œuvre effective des mesures affichées. Et donc, comme le dit la chercheuse Juliette Landry, qui suit les négociations pour l'IDRI, c'est l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales, eh bien Juliette Landry nous dit qu'il faut un cadre de suivi avec des processus de planification, des objectifs mesurables, des indicateurs communs, des rendez-vous réguliers. Alors évidemment, il n'est pas question, parce que ce serait contre-productif, de sanctionner les pays qui n'y arrivent pas, il est plutôt question de les aider. Mais pour les aider, il faut des moyens. Et alors on se retrouve là dans la même situation que pour le réchauffement climatique. Les pays du Sud, qui sont les plus pauvres, attendent beaucoup des pays du Nord. Peu industrialisés, ces pays du Sud n'ont pas encore mené une chasse aux vivants aussi destructrice que la nôtre. Évidemment, ils n'en ont pas les moyens. Or, les hauts lieux mondiaux de la biodiversité sont concentrés chez eux, notamment dans les forêts tropicales. Et ce donc... c'est chez eux que doit être préservé en priorité le vivant. Le problème, c'est que ça coûte cher et que donc les pays pauvres, ou qualifiés comme tels, attendent des pays industrialisés des moyens pour préserver leur biodiversité. Et c'est dans l'intérêt de nous tous que ce soit bien clair. Alors la COP 15 se veut protéger 30% de la surface de la Terre d'ici à 2030, c'est vraiment le cri de ralliement général de tous ses participants, objectif des plus louables bien sûr, et tout biologiste a en tête deux chiffres principaux en matière d'effondrement du vivant. D'abord 1 million d'espèces menacées, on l'a dit, 75% des écosystèmes dégradés. Et puis, tout biologiste, et nous tous aussi, hein, qui nous intéressons à cette question, connaissons les 5 grandes causes de l'extinction du vivant. La première d'entre elles est la destruction des habitats des espèces animales et végétales, puis viennent la surexploitation, les pollutions chimiques, le dérèglement climatique, lequel, s'il se poursuit à cette allure, risque de devenir la première de ces causes. Et puis, il y a également, pour en finir, les espèces invasives. Donc, il serait logique de s'attaquer aujourd'hui à la cause première, qui est la destruction des habitats due notamment à l'agriculture industrielle, à la déforestation et à l'urbanisation. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, si on additionne les quelques 175 000 parcs nationaux et sanctuaires dont chaque pays s'est plus ou moins abondamment doté, les chercheurs du SNRS arrivent au chiffre mondial de 13,5% de la surface terrestre qui serait mise sous protection. Cruel rappel, tout de même, c'est le chiffre de 17% qu'ambitionnait d'atteindre en 10 ans la COP10, celle dont je vous parlais tout à l'heure et qui s'est tenue à Nagoya au Japon. Donc vous voyez que on est déjà quand même très très en retard. Alors, aujourd'hui, on se heurte quand même à un certain nombre d'écueils. Le premier, en matière de protection, est que le nombre d'aires aujourd'hui prétendument protégées sont des aires protégées, certes, appelées comme telles, mais c'est sur le papier, c'est du pur affichage, il n'y a rien de concret ou très peu. Si l'on regarde par exemple, tiens, prenons les zones de pêche, hein, la France dispose de 382 855 km² de zones maritimes de protection intégrale du côté des terres australes dans des mers qui ne sont guère fréquentées. Alors on pourrait se dire c'est énorme, la France a bien travaillé, mais il faut ramener ça aux 94 km² qui sont les seuls à être protégés dans les eaux territoriales, et c'est là, dans ces eaux territoriales, que se produit le problème, puisqu'elles sont soumises à la pression constante des chalutiers industriels et elles sont en grand besoin de restauration écologique. Donc, premier problème, sur le papier, oui, nous avons des aires protégées, dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Deuxième écueil, on protège 30%, d'accord, mais les 70% qui restent, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on ne doit pas abandonner ni des espaces, ni des espèces, sinon ça n'a aucun sens. C'est toute la biodiversité qu'il faut sauver. N'oublions pas, et comme le rappelle d'ailleurs Hélène Soublet, qui est la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, n'oublions pas que la destruction des habitats est due en priorité à l'agriculture non durable, et donc celle qui domine chez nous dans les pays industrialisés. Donc cette proposition de protéger 30% des terres, aussi sympathique et essentielle soit-elle, malheureusement paraît notoirement insuffisante encore une fois. Donc cette COP a signé un accord le 19 décembre, elle est arrivée, un accord qualifié par la Chine qui la préside, d'historique, par la France, par l'Europe. Enfin, vous l'avez compris, il ne faut pas y regarder de trop près, puisque si on examine un peu les détails du texte, on se rend compte que l'engagement vaut au niveau mondial, mais pas national. Ce qui signifie quoi ? Ben, ça signifie tout simplement que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et là est le problème. L'ONG Bloom affirme même que, notamment en ce qui concerne les aires marines, celles-ci sont, ce sont ces mots, hein, je ouvre les guillemets, faussement protégées, car sans aucune interdiction d'activité destructrice, fermez les guillemets. Qu'en est-il de l'aide aux pays du Sud que j'évoquais il y a quelques instants ? Ils réclamaient 100 milliards, ils n'en ont eu que 20. Qu'en est-il des pesticides ? L'engagement a le mérite d'exister, mais il est extrêmement flou. Le mécanisme de suivi au surplus visant à faire en sorte que 23 de ces engagements ne soient pas que du pur affichage, qualifié de globalement positif. Mais le problème, c'est qu'il n'est ni contraignant, ni vraiment incitatif. Donc, est-ce un coup d'épée dans l'eau ? Non, les choses progressent, on a parlé, on prend la mesure de la problématique, mais il faut bien reconnaître qu'on ne fait pour l'instant pas grand-chose pratiquement, et que le risque est toujours là, et que notre planète est toujours en danger malgré cette COP15. Voilà ce que l'on pouvait en dire, bien sûr brièvement résumé, je vous envoie aux articles de presse et notamment à la relation qu'en a fait Jean-Luc Porquet durant 5 semaines dans Le Canard Enchaîné, pour éventuellement en savoir un peu plus et avoir des détails sur les grands titres que je vous ai donnés. Thank you. voilà quelques mesures de l'arnaque. Tiens, pourquoi ai-je choisi, après la COP 15, cette musique? Allez donc savoir. Alors, il y a quand même des choses qui vont bien aussi. Il y en a peu, mais il y en a. Et il ne faut pas se cantonner aux nouvelles pessimistes. Donc, il faut parler de ce qu'il va mieux. Et j'ai noté, par exemple, en matière de pesticides, c'est un début de « ça va mieux », dans le journal Le Monde, que le Conseil d'État avait ordonné au gouvernement de mieux protéger les riverains. Alors, Conseil d'État, haute juridiction, comme on l'appelle ordinairement, vient d'adjoindre au gouvernement de fixer les distances de sécurité plus grandes entre les zones d'habitation et les épandages de produits phytosanitaires parmi les plus problématiques. Et le Conseil d'État recadre, et encore une fois de plus, le gouvernement sur la question des pesticides. La décision rendue le jeudi 22 décembre enjoint au gouvernement de fixer des distances de sécurité plus importantes entre les lieux d'habitation et les épandages de ces produits. Les conseillers d'État testent ainsi les vertus de la répétition, malheureusement, puisqu'ils avaient déjà rendu le 26 juillet 2021 une décision annulant partiellement le décret du 27 décembre 2019 relatif à la protection des personnes lors des usages de pesticides, au motif notamment que celui-ci prévoyait, et je cite, la décision « des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ». Considérant que 6 mois plus tard, le gouvernement n'avait pas pris acte de cette décision, plusieurs associations, Génération Future, France Nature Environnement, UFC Que Choisir, Alerte des médecins, etc., ont à nouveau saisi la haute juridiction qui, au terme d'un cycle de 17 mois, est contrainte malheureusement de se répéter. Elle a mis en avant, et ce sont ses mots, la gravité des conséquences du défaut partiel d'exécution en termes de santé publique, et l'urgence particulière qui en découle. Elle a fixé 2 mois au gouvernement pour réagir sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Oui, je sais, c'est pas énorme. Le ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique n'ont pas voulu commenter cette décision. Autre nouvelle que vous pouvez lire dans tous vos journaux, dont d'ailleurs dans Le Monde, que je cite souvent, mais les articles y sont de fort bonne qualité, elle concerne la fusion nucléaire. Une percée scientifique majeure a été annoncée par un laboratoire américain. Alors vous savez que la fusion nucléaire est considérée, je dis bien fusion, on n'est pas sur la fission, la fusion nucléaire est considérée par ses défenseurs comme l'énergie de demain, notamment parce qu'elle produit peu de déchets et pratiquement pas de gaz à effet de serre. Et mardi 13 décembre, le laboratoire national Lawrence Livermore, en Californie, annonçait avoir franchi une étape marquante dans le domaine de la dite fusion nucléaire. Ce phénomène physique est à l'œuvre aussi bien au cœur des étoiles qu'il fait briller que dans les bombes thermonucléaires. Donc sa maîtrise sur Terre est présentée comme une source d'énergie pouvant se substituer à toutes les autres, une source d'énergie abondante, sûre et pratiquement non émettrice de CO2. C'est sans doute la raison pour laquelle l'annonce a été faite en personne par le secrétaire national à l'énergie des États-Unis, qui s'est félicité de ce que l'installation National Ignition Facility, la NIF, ait réussi à produire le lundi 5 décembre davantage d'énergie que celle qui avait été apportée au système, et aussi 2,2 fois plus d'énergie que lors d'une précédente étape importante qui avait été franchie en août 2021. Alors que les centrales électriques fonctionnent sur le principe de la fission nucléaire, c'est-à-dire la cassure de gros noyaux en de plus petits, en libérant de l'énergie, ce laboratoire américain cherche lui à forcer le mariage entre des noyaux légers, que sont le deutérium et le tritium, des cousins de l'hydrogène, et pour cela, il faut dans des temps très brefs et dans un espace minuscule, les chauffer à des températures plus élevées que celles du Soleil, c'est-à-dire plusieurs millions de degrés. Donc vous voyez que c'est quand même techniquement assez complexe. Et si ces conditions sont remplies, 2 éléments fusionnent, puis libèrent de l'énergie, ainsi que d'autres particules qui vont entretenir la chaudière et engendrer d'autres fusions. Voilà, ces faisceaux convergent à l'intérieur d'une cavité cylindrique à nord d'un centimètre d'eau qui est ainsi bombardée par des rayons X et qui va émettre des rayons X en son sein, lesquels servent ensuite à chauffer directement une petite bille de 2 mm de diamètre contenant le mélange de thérium et tritium, et la capsule implose et des réactions de fusion ont lieu. Voilà très sommairement et résumé le fonctionnement complexe de cette fusion nucléaire sur laquelle on peut fonder un certain nombre d'espoirs. Allez, pour en terminer, un conseil de lecture, La Terre a soif, c'est chez Fayard et c'est sous la plume d'Éric Orsenna. Tout le monde connaît aujourd'hui Éric Orsenna, économiste, écrivain, membre de l'Académie française, qui est extrêmement prolifique, hein, sa plume ne reste pas sèche très longtemps. Et il préside, il faut le savoir, l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Donc il est très engagé et soucieux de l'avenir de notre planète. Il est tout à fait conscient de l'importance de l'eau, comme nous devrions d'ailleurs l'être tous. Et dans La Terre a soif, Éric Orsenna raconte son tour du monde des grands fleuves. Il la raconte très longuement, c'est un assez gros livre, mais qui se lit de façon très aisée, très facile, c'est tout à fait passionnant. Il fait le portrait de trois de ces grands fleuves. Il nous donne à voir de près la cause de leurs maux, pénurie mondiale d'eau, la pollution, la multiplication des barrages qui entraîne la destruction des ressources et des paysages. Et puis il fait un constat, aujourd'hui les violences viennent de l'eau elle-même, violence née de sa rareté tout autant que sa répartition. Donc c'est un livre passionnant, les récits fouillés, renseignés, il y a des cartes, c'est une question absolument cruciale pour l'humanité et je vous conseille vivement de lire ce livre, encore une fois très facile de lecture, avec une foultitude d'informations qui nous permet d'avoir un peu une radioscopie sur de l'eau et des grands fleuves de notre planète. C'est essentiel pour les problèmes qui nous occupent. Voilà pour cette émission Arcadia. C'est une émission un peu plus courte que d'habitude, mais que je tenais à faire avant cette fin d'année pour donner un compte rendu, même succinct, de la COP 15. Il y avait à la réalisation, à la technique et au montage de cette émission, Cheliane Amada, que je remercie. Vous pourrez bien entendu retrouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Arcania. Belle journée à toutes et à tous.